Eh bien, j'aimerais lire brièvement une parole de Dieu avant que nous prions ensemble. Levez-vous avant ou pendant la lecture de la parole. J'aimerais lire Néhémie 9. Néhémie 9, verset 5, au milieu du verset. Ah, louez le Seigneur votre Dieu d'éternité en éternité. Et que soit loué ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute louange et de toute gloire. Verset 6. C'est toi qui es, Seigneur, toi seul. C'est toi qui as créé le ciel et le ciel des cieux, toute leur armée, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles renferment. C'est toi qui donne la vie à toutes ces choses et l'armée céleste t'adore. Verset 7, toi, Seigneur, tu es le Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait émigrer d'Ur en Chaldée et lui a donné le nom d'Abraham. Verset 8, après avoir trouvé son cœur fidèle envers toi, tu as conclu avec lui l'alliance de donner à ses descendants le pays des Cananiens, des Hittites, des Amorites, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guigasiens, et tu as tenu parole car tu es juste. Jusqu'à ce jour, jusqu'à cette parole de Dieu, précieuse et sainte, adorons ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond du cœur pour ce jour de grâce et pour cette heure de grâce. Nous te remercions du fond du cœur et ton nom, que ton nom soit honoré d'éternité en éternité, car tu es en effet le vrai Dieu, celui qui a tout créé, le visible et l'invisible. Seigneur, nous te remercions d'avoir fait des promesses à ton peuple depuis le commencement et de les avoir tenues en ton temps. Ô Dieu, nous t'adorons et nous louons ton nom glorieux. Ce soir encore, en ces jours qui sont les nôtres, tu as parlé, ô Dieu. En effet, tu as parlé. Et en vérité, Seigneur, nous croyons que tu accompliras tout ce que tu as dit. Seigneur, tu as aussi conclu une alliance avec nous. Comme en ces jours-là, Seigneur, et tu as fait la promesse que ton peuple hériterait de la terre. Oh, comme c'est merveilleux, Seigneur, que tu aies été trouvé fidèle dès le début par ton peuple. Il devait prononcer ces paroles. Tu as été trouvé fidèle. Nous aussi, nous ne pouvons que dire, tu es fidèle et tu restes fidèle. Ô Dieu fidèle, même si nous sommes parfois infidèles, tu restes néanmoins fidèle, Seigneur. Seigneur, nous te prions sincèrement, sincèrement, de prendre ce soir tout ce qui ne te plaît pas en nous. Tu sais que nous sommes des êtres humains, Seigneur, oublieux et faibles, entachés de fautes, ô Seigneur. Reprends, ôte tout de nous, tous nos péchés, toutes nos transgressions, toute notre incrédulité, tout ce qui te fait obstacle, et je t'en prie, continue de nous parler par ta parole précieuse et sainte. Seigneur, je te prie de bénir ton peuple ce soir, tous ceux qui sont venus et aussi ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Fais grâce à tous, Seigneur, et aide, Seigneur, notre frère à apporter ta parole. Et ouvre-nous le cœur et les yeux, ô Dieu, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire par ta parole précieuse et sainte. Nous t'adorons et louons ta grâce. Sois avec nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. J'avais l'intention de chanter le refrain de plus près de la maison, mais ce n'est plus nécessaire. Le cantique, y compris le refrain, a déjà été chanté. Nous sommes si reconnaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en nous, pour toutes les grâces qu'il nous a accordées, pour sa parole révélée, pour tout. En fait, c'est une grâce imméritée qu'il nous a accordée. Et quand nous pensons à l'Apocalypse, chapitre 15, au troupeau de vainqueurs qui sera là, près de la mer de cristal, Apocalypse 15, verset 2. Apocalypse 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. » Mêlée de feu, et je vis debout sur la mer de cristal ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et son image et sur le nombre de son nom. Harpe de Dieu à la main. Nous ne lirons que ce verset. Aujourd'hui, je vais traduire une prédication de Frère Branham. Si je ne trouve rien dans les Saintes Écritures qui brille, j'ai toujours le grand privilège de pouvoir alors recourir aux prédications de Frère Branham. C'est un trésor merveilleux que nous avons et nous en sommes très reconnaissants. Les prédications sont si simples, mais si puissantes, si profondes et si émouvantes. Il est dit ici de la foule qui sera sur la mer de cristal qu'elle a remporté la victoire sur la bête, sur son image et sur le nombre de son nom. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y aura ceux qui ont su ce qu'est la bête, ce qu'est l'image de la bête, ce qu'est le nombre de son nom. Ne pensez pas que tous ceux qui pensent qu'ils y seront. Hier, j'ai presque eu le choc de ma vie en lisant dans le magazine du plus grand évangéliste du monde actuel un article sur la Trinité. Et il utilise, il n'a pas lui-même écrit ce magazine, il faut être correct en tout, mais dans son magazine, et puis il écrit « La Trinité divine forme une unité économique ». Et j'ai dû d'abord prendre une profonde inspiration. J'ai dû prendre mon souffle pour comprendre ce qui était dit là. La Trinité forme une unité économique. Une unité économique. Ce que l'un ne peut pas faire, l'autre le fait pour eux. L'autre le fait peut-être. Ce que l'un a oublié, le troisième le fait. La Trinité formerait une unité économique. Incroyable. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et cela peut sembler dur, mais croyez-moi, toutes les confessions dénominationnelles vont dans la même direction. Ils ont repris les enseignements et ont ignoré la parole de Dieu ces derniers temps. Ils s'imaginent avoir le plus grand programme de Dieu sur terre, mais ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble le programme de Dieu. Et cela ne nous rend pas critiques. Non, mais reconnaissant. Reconnaissant pour la révélation que nous avons reçue par grâce. Ici, comme nous l'avons lu, il y aura une foule qui aura remporté la victoire sur la bête, sur l'image de la bête et sur le nombre de son nom. Ce sera la foule. Il doit donc s'agir de personnes qui ont eu la révélation de ces choses. Est-ce le cas ou non? C'est le cas, à 100%. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons pas prêcher aujourd'hui. Deux choses ont attiré mon attention dans la parole d'introduction. La première était le fait mentionné au verset 8. Verset 8, Néhémie 9, verset 8. Après avoir trouvé son cœur fidèle envers toi, tu as conclu une alliance avec lui. Puisse Dieu trouver notre cœur fidèle envers lui afin de nous inclure dans cette alliance. Dieu a conclu une alliance sur la croix à Golgotha. Et puis, la dernière partie du verset 8. Et tu as tenu parole, car tu es juste. Puisse Dieu nous trouver fidèles dans ce qu'il nous a confié, fidèles dans ce qu'il nous a été accordé, et puissions-nous aussi pouvoir dire, Seigneur, tu as tenu ta parole, car tu es juste. Comme frère Rousse l'a déjà souligné, il est aussi fidèle. Et il est vrai. Ce qu'il a promis, il le tient certainement. Chantons « crois seulement » et ensuite je vais traduire une prédication, une très vieille prédication ce soir. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, oh, crois seulement. Je voudrais lire le chapitre 36 du prophète Ézéchiel, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, maintenant le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Verset 28, « Vous habiterez alors le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Nous allons maintenant parler du fondement et j'aimerais que frère David et vous tous fassiez preuve de patience. Je voudrais parler de ce qu'il faut pour mener une vie chrétienne, de ce qui la compose. Eh bien, il y a beaucoup de choses et nous savons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas beaucoup de choses. Dieu nous a fait savoir certaines choses et nous voulons nous édifier sur ce que nous savons dans la parole de Dieu et découvrir de quoi il s'agit. Que Dieu nous bénisse pendant que nous proclamons sa parole. Pensez-y et prier. Pour commencer, je voudrais dire ceci. Il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas dans l'Église. Nous le savons, frère Charles et moi en avons parlé tout à l'heure. Il semble qu'il manque quelque chose quelque part parmi les gens. J'ai mes idées, nous avons les nôtres et nous avons travaillé aussi dur que possible. Mais nous n'avons pas réussi à abattre les murs qui se dressent devant nous. D'une certaine manière, on dirait que nous avons creusé la question. Mais un jour, les murs devront tomber et Dieu, l'armée unie de Dieu, avancera sous une grande bannière du Seigneur Jésus-Christ. C'est mon sincère espoir. Eh bien, si l'Église du Dieu vivant est la colonne de la vérité, alors Dieu a prévu de faire d'elle une Église puissante, une Église glorieuse, une Église que le monde entier peut admirer, une épouse du Christ, qui est acceptée, qui peut être représenté pour vivre dans une telle atmosphère et se comporter de telle sorte que Dieu puisse être fier de cette Église pour la lui présenter au retour du Seigneur, pour montrer que nous pouvons vivre de telle qualité. C'est ainsi que nous devrions vivre, mais nous constatons que très souvent, nous avons de bonnes intentions, mais nous n'y parvenons pas. Nous essayons d'agir en chrétien et nous disons, nous sommes ceci, nous sommes cela, et nous essayons de vivre correctement, mais nous n'y parvenons pas. Si nous, en tant qu'Église, considérions maintenant la chose, le christianisme ou l'Église n'a pas été destinée par Dieu à être dominée par des dénominations ni par des dogmes. Si Dieu avait prévu que l'Église soit dirigée par des hommes, des dénominations ou des intellectuels, alors nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit dans l'Église. Le succès de l'Église dépendrait alors de ce que les intellectuels y produisent. L'Église en dépendrait alors, et plus nous aurions d'intellectuels dans l'Église, plus le progrès serait grand. Mais dans la Bible, dans la parole, je trouve que Dieu n'avait pas prévu que l'Église soit gouvernée ou dominée par des intellectuels, ni par la théologie humaine, mais par le Saint-Esprit. Il a été donné à l'Église pour unir et diriger le corps du Christ. Avec cela, selon moi, conformément au programme de Dieu, nous ne réussirons jamais avant d'être revenus au centre de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Eh bien, ce n'est pas nouveau d'en parler. On a souvent parlé de ce texte et de ce sujet, mais nous allons maintenant l'éclairer sous un autre angle. Nous avons parfois l'impression que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais d'autres choses sont mélangées et ce n'est pas normal. Lorsque le Saint-Esprit essaie de faire quelque chose et que quelque chose se lève, la jalousie s'installe et d'autres veulent faire la même chose. Et c'est déjà la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Eh bien, les gens ont tellement vu de choses dans les dénominations qu'ils sont lents cas. Il y a des dictateurs partout. Et vous devez faire ceci et vous devez faire cela. Les choses sont dictées. Encore quelqu'un, un dictateur, ceci et cela que vous devez faire. Partout, on décide de ce qui doit être fait pour tous les autres. Et il semble que nous soyons impuissants. Mais voyez, nous avons un corps. J'ai mes bras, ma bouche, tous mes membres doivent être efficaces en harmonie les uns avec les autres. Et si Dieu a assemblé son corps de cette manière et veut le gouverner par son esprit, alors il doit y avoir une possibilité, un programme dans lequel il peut être qui... Un programme dans lequel il peut être qui va au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Eh bien, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, et Ézéchiel était un prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». J'aime ça, parce que Dieu dit qu'il va faire quelque chose de nouveau. Cela ne signifie pas qu'il va réparer l'ancien. Non, je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un esprit nouveau. Il n'a pas dit qu'il donnerait un petit coup de pouce. Non, il fera quelque chose de nouveau. Non pas seulement relever un peu l'ancien, réparer, mais offrir quelque chose de nouveau. Et non pas non plus mélanger l'ancien avec le nouveau. Non, il ne fera pas non plus cela. Jésus en a parlé dans l'évangile de Luc lorsqu'il a dit « Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, dans de vieilles bouteilles, dans le texte anglais. » Marc 2, 22. Eh bien, j'ai d'abord dû devenir missionnaire pour savoir ce que cela signifiait. Quand nous avons une bouteille, nous savons qu'elle ne peut ni se gâter ni vieillir. Mais vous savez de quoi étaient faites ces bouteilles à l'époque, à savoir de la peau d'un animal, cousu ensuite ensemble pour que le liquide puisse être conservé. Que ce soit de l'eau, du vin ou de l'huile, tout y était mis. Mais quand la peau vieillit, elle sèche. Et c'est là que l'on retrouve le lien avec ce que Jésus voulait dire. Si l'on mettait du vin nouveau dans une si vieille outre en pot, elle éclaterait. Vous pouvez y mettre de l'eau et il ne se passera rien du tout. Mais vous ne pouvez pas y mettre du vin car l'eau, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la composition de l'eau et il ne peut rien lui arriver. L'eau repose, elle est calme, rien ne se passe, elle n'a pas de vie en elle. Vous voyez? Mais c'est tout à fait différent avec le vin. Le vin a la vie en lui. Le vin nouveau, il passe par le processus de fermentation et il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Et s'il se dilate dans la vieille bouteille en pot, alors elle va éclater. Et puis la bouteille en pot est cassée et le vin est perdu. Les deux ne sont plus là. C'est ainsi que nous voyons les choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer à travers une vieille forme et devenir nouveau en pensant que vous faites maintenant partie du programme de Dieu intellectuellement. Non, ça ne marche pas comme ça. Cette vieille peau sèche doit disparaître et quelque chose de nouveau doit naître. Une nouvelle peau, une nouvelle bouteille. Et vous savez comment c'était avec les animaux. Quand on prenait une nouvelle peau, une peau fraîche, elle était encore souple, elle s'étirait encore, elle contenait encore de la graisse. Et ainsi, elle cédait et elle restait en place. Mais il n'en était pas de même avec l'ancienne devenue cassante. C'est comme ça aujourd'hui. Écoutez, nous avons besoin de vin nouveau, mais où sont les nouvelles bouteilles? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est la même aujourd'hui. Les intellectuels à la peau dure qui disent, oh, attendez un peu, le temps des miracles est passé, est révolu. C'est le docteur John qui nous l'a dit. Non. C'est tout à fait différent lorsque le vin nouveau est mis dans une nouvelle autre. Vous voyez, lorsque la vie commence à bouger, rien n'éclate. Tout s'adapte et bouge avec cette vie. Vous voyez, rien, Dieu a fait des promesses divines et Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque vous êtes devenu nouveau, que du vin nouveau est entré en vous, vous dites alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai, c'est la vérité. Vous voyez, vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Non, cela ne marcherait pas. Voyez, si nos enseignants, si nos prédicateurs, si les bergers, laissez-moi vous le dire, nous avons besoin d'une nouvelle vie, mais nous avons besoin que cette nouvelle vie soit acceptée. Voyez, et il veut mettre son esprit en nous, car l'esprit soutient la parole. Autrefois, quand quelqu'un était guéri et témoignait cela, les noms renouvelés disaient, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils disaient, attends, je te parlerai dans un an, on verra ce que le médecin dira. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, est renouvelé et qu'il attend et qu'il entend un tel témoignage, il dit, alléluia, gloire à Dieu, je me réjouis avec toi. Vous voyez, on remarque tout de suite où il y a du nouveau, où il y a une nouvelle naissance. Mais vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Cela me rappelle une expérience. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. C'était il y a de nombreuses années. J'étais en voyage de chasse. Et je pensais être un bon homme des bois. Et j'étais sur la piste d'un vieil ours. Je l'avais vu plusieurs fois, mais je n'avais pas le droit de l'abattre et je n'en avais pas l'intention. Mais je le suivais à la trace. Et j'avais un jeune cheval de 3 ans que je montais et lui aussi sautait encore beaucoup d'avant en arrière. À la fin, nous étions tous les deux fatigués, le cheval et moi. Et puis, j'ai pensé, maintenant, tu t'arrêtes. Je suis arrivé à un endroit d'où je pouvais regarder en arrière. Et je pouvais regarder dans presque toutes les directions depuis la colline. Et comme je le fais parfois, j'ai fermé les yeux et je me suis recueilli pour savoir si le Seigneur voulait me dire quelque chose. Et vous savez, vous devez pouvoir vivre dans le domaine spirituel. Vous devez être en communion avec lui. Et quand j'ai continué mon chemin en direction de là d'où je venais, j'étais en haut dans les montagnes et soudain, j'ai été surpris. Il avait plu un peu cet après-midi-là, mais les nuages se sont dissipés et le soir, la lune est sortie. Et je suis arrivé dans une zone où un feu avait eu lieu dans la forêt. Et d'une certaine manière, tout était complètement nu. Tout était nu dans les environs. Et il n'y avait pas d'écorce sur les arbres. Ils étaient complètement nus. Et d'une certaine manière, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas non plus de possibilité pour que la sève puisse sortir, car l'écorce n'était plus là. Et j'ai soudain senti que je devais m'arrêter là. J'ai attaché mon cheval et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit, mon Père céleste, je te suis si reconnaissant que tu sois mon Père. Jusqu'ici, tu m'as guidé et tu as pris soin de moi. Et je te remercie. Je te remercie pour la nature. Je te remercie pour tout. Vous savez, un chasseur apprécie tellement la nature. Et puis, j'ai soudain entendu un bruit étrange. C'était si triste. Les vents soufflaient et de petits nuages passaient encore, que nous appelons des nuages de babeur. Et là, et la lune brillait, les vents soufflaient, mais j'entendis un bruit inquiétant, comme si quelqu'un se lamentait. Et le vent le fit entrer. Et je ne savais pas encore ce que c'était. Un gémissement presque effrayant. Et je me suis dit, oui, Seigneur, que signifie tout cela? On nous dit pourtant que les pas du juste sont guidés par le Seigneur et que tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Que se passe-t-il ici, Seigneur? De quoi s'agit-il? C'est ton grand amour pour ton peuple. Nous traversons l'obscurité, c'est vrai, mais la lumière revient toujours. Et je crois que même si l'Église n'a pas encore atteint ce stade, elle y parviendra. Elle y parviendra. Nous croyons, nous prions et nous allons de l'avant. Oh, quel moment de joie ce sera lorsque les rachetés se présenteront ce jour-là devant le Rédempteur et qu'il se tiendra devant nous en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, qu'il sera couronné et que nous serons sur la montagne de Sion. Oh, la paix régnera sur toute la terre et les rachetés régneront avec lui. Oh, quand nous chanterons le chant de la rédemption, les anges se tairont. Ils ne comprendront pas ce qui se passe, car ils n'ont pas été rachetés. Ils ne sont jamais tombés pour pouvoir être rachetés. Seuls les hommes savent ce que signifie être racheté. L'ange ne sait pas ce que signifie être perdu. Oh, quelle joie nous exprimerons là-bas. Et je crois aussi que ce sera déjà le cas comme ça dans l'Église. Et j'ai entendu ce bruit de gémissement. Et je me suis dit que c'était presque effrayant ici. Presque hanté, effrayant d'être ici. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ai-je dû attacher mon cheval? N'aurais-je pas pu continuer à monter? Mais d'une certaine manière, c'était Dieu qui m'enseignait quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, que signifie tout cela? Et ce vent qui soufflait là-bas, c'était comme un hurlement, comme un gémissement. Et j'ai aussi ressenti une sensation étrange. J'ai regardé les montagnes au clair de lune et j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire de ce spectacle? Pourquoi suis-je ici? Et puis, une écriture m'est venue du livre de Joël. Ce que le rongeur a laissé, la sauterelle l'a mangé. Et ce que les autres insectes ont laissé, l'un d'eux a continué à manger. Joël 1:4. Et je pensais que tout était nu ici, de grands arbres, mais complètement nus. Ils étaient verts autrefois. Le vent les faisait autrefois bouger. Quel spectacle majestueux cela devait être. Et à quoi cela ressemble-t-il maintenant? Le vent souffle, mais plus aucun mouvement, plus aucune vie. On n'entend plus qu'un gémissement, un râle. Ils sont morts. Et les mêmes vents peuvent souffler et ils restent raides. Si raides que le vent ne peut plus les déplacer. Ils ne bougent plus que légèrement et émettent un son lamentable. Ce n'est plus comme avant. La vie et la beauté, l'ombre, ils il ne reste plus rien, dépouillé et gémissant. Et je me suis dit, oh oui Seigneur, c'est ça. Et puis, j'ai pensé à ce qu'il en était autrefois avec les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes, les nazariens, les pèlerins de la sainteté, avec toutes les communautés religieuses que nous avons. Et je me suis dit, quand ils ont commencé, comment vivaient-ils? Comment est-ce qu'ils avaient la vie en eux-mêmes? Le Saint-Esprit était en eux. Et chaque fois que Dieu envoie son puissant vent, comme le jour de la Pentecôte, oh, comme ils se réjouissent des bénédictions de Dieu. Tout est agité, animé, et il y a un mouvement. Il y a eu un réveil après l'autre. Mais que s'est-il passé ensuite? Les feux de la persécution se sont éteints et la vie a disparu. Comment vont-ils maintenant? Des séminaires ici et là. Les garçons y vont, ils reçoivent une excellente formation. Mais ils ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ont fermé la ligne de vie. Pensez au réveil méthodiste. Quand on tenait des réunions dans les écoles et que le Saint-Esprit descendait sur les gens qui tombaient par terre et qu'il fallait attendre qu'ils se remettent. Parfois, on trempait quelque chose dans de l'eau froide et on le posait sur leur front comme un mouchoir pour les rafraîchir et qu'ils se remettent. J'ai moi-même vu des gens être ainsi sous la puissance de Dieu à la communauté religieuse baptiste. Et maintenant, tout est fini. Tout est expliqué et la vie n'est plus là. La formation est là. Au lieu que les gens viennent à l'autel, l'autel n'est plus là. Le banc de repentance a été enlevé. Il est à la cave. Et l'autel n'est plus là. Du tout, il y a un grand orgue à tuyaux. Et tout est différent de ce que c'était avant. Ce ne sont plus les âmes qui viennent à l'autel. Maintenant, ce sont des fleurs, des lys qui sont là devant et qui décorent l'autel. Et quand ils chantent si fort qu'on a du mal à suivre leur voix. Bien sûr, ils ont de belles voix. Mais quand ils chantent si longtemps jusqu'à ce que leur visage devienne bleu et qu'ils disent ensuite, nous faisons cela pour la gloire de Dieu. Ça, je ne crois pas. Non. Quand j'entends ce genre de choses, c'est très mauvais. Quand j'entends une voix qui tient le ton si longtemps qu'elle en a le visage bleu et qu'elle en fait un spectacle, ce n'est rien de plus qu'un spectacle. Elle ne chante pas pour la gloire de Dieu. Non, certainement pas. Non. Ce dont nous avons besoin, ce sont des cantiques si anciens que le Saint-Esprit lui-même peut descendre jusqu'à ce que tous puissent chanter dans l'esprit. Vous voyez, ils disent, les jours des miracles sont révolus et ce n'est plus là, etc. Tout est intellectuel, le baptême du Saint-Esprit n'est plus là. Puis tout s'est figé. Pas étonnant que tout se soit figé. Autrefois, c'était des arbres florissants et verdoyants. Maintenant, ils sont figés, sans vie. Mais à l'époque, c'était des arbres vivants et en pleine croissance. Et maintenant, on n'entend plus qu'un bruit. La ligne de vie n'est plus là. Quand Dieu envoie son vent, quand il fait descendre son esprit, que se passe-t-il? Il reste alors raide. Ce n'est pas un son affectueux qu'ils émettent, mais un bruit lamentable. Quoique le même vent souffle. Et si quelqu'un dit, il y a une campagne de guérison là-bas. Oh, alors, on dit immédiatement, non, tu n'iras pas là-bas. Et puis on dit immédiatement, tu n'as pas besoin d'écouter le prédicateur là-bas. et on a cru ces gens au lieu de suivre le Saint-Esprit. Dieu veut révéler son salut, manifester son salut. Il veut se faire connaître. Il veut remettre le Saint-Esprit dans l'Église. Il veut ramener le Saint-Esprit dans l'Église comme cela s'est produit autrefois dans la salle haute. Et non pas que nous disposions de l'Esprit, mais que ce soit l'Esprit qui puisse disposer de nous. Vous vous demandez de quoi il s'agit. Oui, le vent vient du ciel comme autrefois. Et Christ est le même qu'à la Pentecôte. Alors, vint du ciel un bruit tel que celui d'un vent impétueux. Alors, vint l'Esprit de Dieu. Alors, le Seigneur se révéla. Voici la voix de Dieu, la manière de Dieu. Mais quand Dieu envoie maintenant ces choses en lien avec des rassemblements de guérison, oh, alors on se demande ce que disent nos intellectuels. Oh, je vous le dis, le temps des miracles est révolu. La guérison divine n'existe pas. Et le baptême de l'Esprit non plus. Je voudrais, dit-on, que mon assemblée, ma communauté en prenne connaissance. Vous voyez, ils ont ces choses dans leur tête de manière intellectuelle. Allez voir s'ils l'acceptent ou s'ils le rejettent. Vous voyez, ils ont l'air de croire, mais en fait, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils sont intellectuels. Ce sont ceux qui se considèrent comme non éduqués. Les gens simples aimaient entendre le Seigneur, l'écouter, c'est écrit. Alors, je me suis dit, pourquoi suis-je ici maintenant? Et je vois ça. Et puis, j'ai réalisé à quoi cela sert. Que Dieu agisse, que le tonnerre vienne du ciel, que tout soit... et que tout soit nu, et qu'il n'y ait pas de vie, et que rien ne bouge. Vous voyez, Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes que celles-ci. Jean 14, 12, les promesses sont là. Mais comment peuvent-elles se réaliser? Puis, j'ai remarqué que ces arbres, ces grands arbres nus, je ne les regardais soudainement plus. Je regardais le sol. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu que la graine qui était tombée de ces grands arbres dans le sol avait déjà donné de beaux petits arbres. J'ai soudain vu de nouveaux arbres, une toute nouvelle plantation. Vous savez, bien, comment la forêt s'auto-ensemence. Et soudain, je ne voyais plus ces grands arbres devant moi. Je voyais ce qui sortait de nouveau devant moi, qui sortait de la graine des anciens arbres. Ils étaient verts. Ils n'étaient plus nus. Ils n'étaient pas nus. Ils étaient pleins de vie. Vous savez, comme un gland, etc. Il tombe dans le sol et en ressort ensuite. Et j'étais si heureux, si reconnaissant. J'ai poussé des cris de joie et j'ai sauté de joie. J'ai tourné autour d'un arbre aussi vite que possible. Et je me suis dit, Seigneur, il ne s'agit pas seulement des anciennes dénominations. Elles se sont desséchées. Il s'agit de la nouvelle qui émerge maintenant. De la chose nouvelle qui émerge maintenant. Et je me suis demandé comment Dieu voulait tout faire bouger. Et vous savez, chaque fois que le vent souffle, il doit faire bouger l'arbre pour qu'il puisse mieux pousser. Ce que les luthériens ont laissé, les méthodistes l'ont mangé. Ce qu'ils ont laissé, les baptistes l'ont mangé. Ce qu'ils ont laissé, les presbytériens l'ont mangé. Ce qu'ils ont laissé, d'autres l'ont mangé de nouveau. Et ainsi de suite jusqu'aux pentecôtistes. Mais Dieu a dit, je vais rétablir toutes choses, je vais restaurer. Joël 2, 25, ainsi parle Dieu, il le fera dans son grand mouvement par l'Esprit. À la Pentecôte, il y avait 120 bouteilles neuves dans la salle haute. dans la salle haute, 120 bouteilles neuves, des bouteilles et des récipients propres, purs. Et puis, le grondement du ciel se fit entendre comme celui d'un vent puissant, et elles furent remplies d'un nouveau vin de Pentecôte. Voyez, personne n'a explosé, rien n'a été brisé, elles étaient neuves, elles étaient pleines de vie. Et d'autres ont peut-être dit, c'est du fanatisme. Ça, c'était certainement les anciennes bouteilles, mais les nouvelles disaient, amen, loué soit Dieu, alléluia. Regardez, les autres s'accrochaient à l'ancienne doctrine. Je voudrais maintenant que vous écoutiez. Mais là, ici, il y avait des nouvelles bouteilles, des bouteilles neuves. Je voudrais maintenant que vous écoutiez attentivement avant que j'arrive à la fin. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Je vais vous donner un nouvel esprit. Bon, beaucoup de gens ne sont pas au courant de cela. Ils sont pas. Ce n'est pas clair pour eux. Ils pensent qu'ils ont déjà le baptême de cet esprit. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Je vais vous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Je vais ensuite mettre mon esprit en vous. Voyez, Dieu veut d'abord nous donner un nouvel esprit, puis il veut nous donner son esprit. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas vous entendre avec votre voisin. Vous ne pouvez même pas supporter votre voisin, ou bien vous ne pouvez même pas vous entendre avec personne. Dieu veut donner un nouvel esprit, et parfois dans l'enthousiasme qui est différente que la vie. Vous voyez, parfois vous pensez avoir réellement le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous dites, j'ai poussé des cris de joie, j'ai parlé en langue, etc. Peut-être avez-vous fait tout cela, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous révèle Christ. Eh bien, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite, il déverse de son esprit en vous. Il déverse son esprit en vous, voyez? Vous n'avez alors plus besoin de faire semblant d'être chrétien. Le nouvel esprit est la nouvelle vie en vous. Et plus précisément, dans le nouveau cœur. Nouveau cœur, nouvelle vie, nouvel esprit, nouvelle vie. Et ensuite, l'Esprit de Dieu lui-même vient dans le nouveau cœur et dans le nouvel esprit. Vous voyez? C'est comme une horloge. Elle a beaucoup de rouages, mais quelque part se trouve le ressort principal. Et l'Esprit Saint mettra alors ce ressort principal en mouvement. Tout le reste est lié et réglé par lui. Mais le ressort principal est là pour mettre tout le reste en mouvement. Comme l'a dit Ézéchiel, la roue dans les roues. Eh bien, lorsque vous recevez le baptême de cet esprit, il va au milieu du nouvel esprit, dans le nouveau cœur, pour le rendre vivant. Pour le vivifier. Oh, vous pensez parfois que vous l'avez déjà, mais peut-être avez-vous seulement reçu le nouvel esprit, mais pas encore le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient dans ce nouvel esprit. Et alors, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est rationnel, tout est ôté, alors le centre, la roue centrale est mise en mouvement. Et vous verrez, Jésus-Christ, comme le même hier, aujourd'hui et dans toute éternité, vous le verrez dans votre vie manifesté, vous confirmerez tout par un amen. Maintenant, si vous dites, j'ai le nouvel esprit, et que vous mentez, que vous volez, que vous continuez ainsi, que vous êtes toujours dans des organisations, et ainsi de suite, vous vous trompez vous-même. Vous n'avez pas reçu le nouvel esprit, encore moins l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, encore moins. Je ne savais pas que j'allais dire cela, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit fera en sorte que chacune de vos actions sera ce que Christ a fait. Fera de chaque mouvement ce que Christ a fait. Car le fruit de l'Esprit est l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, etc. Galates 5, 20, 2. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit produit, pas vos émotions, pas que vous deviez pomper de haut en bas et faire des efforts. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Le Saint-Esprit vous amène à ce que ces choses se manifestent en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la patience. Voyez, ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais ce que le Saint-Esprit fait en vous. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle, mais quelque chose qui bouge en vous, à savoir le Saint-Esprit. Oh, je pourrais pousser des cris de joie, je pourrais sauter de joie, et je pourrais le dire au monde entier. Voyez, le Dieu vivant veut que cela se produise. Nous avons tellement de choses créées par l'homme, produites par l'homme. On fait de la musique, on fait de l'ambiance, on fait tout. Et on va même dans les rues pour jouer et chanter. Mais où est le Saint-Esprit? Voyez, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Voyez, ce n'est pas du lait écrémé, ça. Hein? Non, mais c'est ce dont l'Église a besoin maintenant. Oh, je désire ardemment recevoir le Saint-Esprit. Vous savez à quel point Dieu a merveilleusement organisé, préparé ces choses dans la Bible. Jésus a dit, à moins de naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Jean 3, verset 3, vous devez l'être. Mais cela ne signifie pas que vous avez poussé des cris de joie, etc. Je ne parle pas de cela. Cela peut être un effet secondaire. Vous devez participer. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant que Dieu agit en vous. Mais je parle de l'œuvre elle-même, de Dieu, de son œuvre en vous. Voyez, lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, il exercera son autorité, il vous contrôlera. Que vous soyez un homme ou une femme, qui que vous soyez, vous ferez ce que dit la parole de Dieu en toutes choses. L'Esprit agira en vous. C'est lui qui produira ces choses en vous. Vous aimerez même ceux qui vous disent de vous tout ce qui est impossible. Même que vous êtes fou, vous les aimerez. Voyez, ce qui est écrit auparavant sous forme de lettres prend vie. Alors, le joug est doux et le fardeau léger. Matthieu 11, 29. Le joug est comme rembourré, léger, comme des plumes. Voyez, alors, vous êtes comme Samson. Vous allez prenez la porte de Gaza et partez avec. Juge 16, 3. Voyez, quand vous en êtes arrivé là, que le Saint-Esprit, non pas vous, le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit vous a sous son contrôle, vous possède. Voyez, c'est le point. C'est pas que vous ayez le Saint-Esprit, mais qu'il vous est. Vous dites et vous pouvez dire, le Saint-Esprit m'a, il habite en moi. Voyez, alors vous pouvez voir tout accompli par Golgotha. Alors vous voyez Jésus-Christ comme étant le même aujourd'hui. Alors vous priez pour vos ennemis. Mais si vous voyez quelque chose et que vous avez raison dans votre cœur, alors vous dites, oui, l'homme n'est qu'un homme comme moi. Et vous continuez votre chemin. Peut-être quelques remarques avant de conclure. Je voudrais dire quelque chose qui me vient du fond du cœur avant de conclure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La deuxième partie sera traduite demain, si Dieu le veut et si nous sommes en vie. J'ai écouté cette prédication très brièvement, avec des interruptions à la hâte tout à l'heure. Je n'ai jamais entendu une prédication comme celle-ci, telle que nous l'avons entendue ce soir. De cette manière, mais exposé ainsi, mais il semble qu'il y ait là une grande vérité. Et je vais peut-être quand même lire ce verset avec nous tous. Ézéchiel 36, verset 26. Il est en effet question ici de deux choses différentes. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la première chose. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est que l'ancien cœur est ôté et qu'un nouveau est mis à la place et que pour que ce nouveau cœur ait la vie, l'esprit doit y entrer. Dieu a insufflé l'esprit à Adam, le souffle de vie, et ainsi il devint une âme vivante. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Je n'ai aucun mal à le voir. Car il est dit au verset 27, après qu'il est question d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau, au verset 26, que, ensuite au verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous des hommes qui marchent selon mes lois et qui observent et pratiquent mes commandements. Il y a donc vraiment beaucoup à faire ici. Il y a beaucoup de contenu ici. En d'autres termes, faire de vous des hommes qui mettent ma parole en pratique, qui marchent dans mes voies, pour parler peut-être avec le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, le Seigneur a soufflé sur les disciples hein, et a dit, recevez l'Esprit Saint, Jean 20, 22. Mais le jour de la Pentecôte, il y eut d'abord le grand bruit, le fait d'être rempli de l'Esprit, d'être équipé, d'être revêtu de la puissance d'en haut. C'est deux choses ici. Nous avons là une très bonne illustration. Un cœur nouveau, donc une nouvelle vie et donc une vie suscitée par l'Esprit doit y entrer. Et lorsque la vie opérée par l'Esprit est entrée en nous par la nouvelle naissance, Dieu veut ensuite ajouter à cette nouvelle vie, opérée par l'Esprit, il veut ajouter la puissance de son Esprit afin que la parole ne soit pas seulement crue et lue, mais qu'elle trouve son accomplissement par la puissance de Dieu qui veut agir en nous. Est-ce que vous comprenez tout cela? L'une est la nouvelle naissance, la nouvelle vie par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle vie doit ensuite être équipée, revêtue de la puissance de Dieu lui-même. L'une est la nouvelle naissance par laquelle l'homme accède à cette nouvelle vie avec Dieu. L'autre est l'équipement, le revêtement avec la puissance d'en haut afin que la nouvelle vie puisse se manifester et que le fruit de l'esprit puisse effectivement se révéler, devenir visible, se manifester. Ce qui est beau, comme nous l'avons entendu, c'est que ce ne sont plus nos efforts. Nous n'avons plus besoin de faire des efforts pour aimer quelqu'un ou pour faire quoi que ce soit d'autre que Dieu nous demande. Au contraire, bien au contraire, la puissance agit, elle est alors en nous. Ou la puissance qui transforme la parole en action est alors en nous. Et nous en avons tous besoin. La parole doit être mise en pratique. Nous n'avons pas seulement besoin d'une nouvelle vie dans un nouveau cœur. Nous avons besoin de cette puissance de Dieu dans le nouveau cœur, dans la nouvelle vie qui transforme la parole en acte, en action, en pratique. C'est-à-dire qui produit la confirmation divine. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Et nous remarquons très clairement que frère Branham n'a pas frappé à côté de la plaque, mais qu'il a frappé en plein. Il a vraiment mis le point sur le i. Il a vraiment frappé en plein dans le mille. Et puis, il dit encore, je ne savais pas du tout que j'allais dire ça aujourd'hui et je ne savais pas non plus que cela serait dit de cette manière, mais je suis content, heureux que cela ait été dit. Nous remarquons que nous avons changé intérieurement. Une nouvelle vie a commencé. Et nous remarquons aussi que nous avons encore des efforts à faire. Nous essayons de faire ci, nous essayons de faire ça, et nous restons sur le carreau. À cette nouvelle vie, la puissance de Dieu doit maintenant s'ajouter afin que la parole puisse être mise en pratique par chacun de nous. Je le relis encore une fois pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et je veux vous donner un cœur nouveau et vous donner un esprit nouveau. Donc, avec le nouveau cœur, un nouvel esprit, une expérience avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est une expérience avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux ôter de votre poitrine le cœur de pierre. Mais maintenant, posons notre main sur ce pauvre cœur, comme dans la parabole du repas. Mettez la main sur votre cœur. Est-il dur comme de la pierre ou est-il tendre, votre cœur? Y a-t-il de la compassion? Y a-t-il de la vie ou est-il encore dur? Il ne s'agit pas de dire nous avons un nouveau cœur et de prier Dieu pour qu'il nous donne la puissance de vivre avec ce nouveau cœur alors qu'il y a encore une pierre à l'intérieur, dure comme la pierre, pas de compassion sincère, rien de ce qui pourrait nous émouvoir. Pour être sûr, je suggérerais de prier pour les deux. Nous prions pour un cœur nouveau, pour un esprit nouveau, pour une vie nouvelle, et nous demandons en plus, Seigneur, accorde-nous avec cette vie nouvelle et ce cœur nouveau ta puissance, afin que ce ne soit pas nous qui produisions quelque chose par nos propres efforts, nous n'y arriverons pas de toute façon, mais que ce soit la puissance de Dieu qui puisse agir à travers nous. En lien avec cela, justement, il est dit ici dans Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous des gens qui marchent selon mes lois et qui observent et mettent en pratique mes instructions. » Mes instructions. Donc, lié à cela implique l'action, la mise en pratique, l'exécution des ordres du Seigneur, des instructions du Seigneur, y compris le grand mandat, l'ordre missionnaire qui englobe le monde entier. Alors, la puissance de Dieu est en nous pour que nous puissions non seulement écouter ses paroles, ses instructions et ses ordonnances, mais aussi les mettre en pratique, les exécuter. C'est ce que je souhaite ce soir. C'est ce que je me souhaite ce soir. C'est ce que je me souhaite ce soir. Que ce ne soit plus l'effort de mener une nouvelle vie, mais que la nouvelle vie soit là. Et que dans cette nouvelle vie, elle peut parfois être fragile et à chaque début ne doit pas nécessairement signifier la fin, mais que dans cette nouvelle vie, la puissance de Dieu puisse entrer et que cette puissance de Dieu, dans le nouveau cœur, mette en pratique la parole de Dieu et la confirme. Si nous retenons cela de ce soir, nous serons réellement aidés. Ce serait encore mieux si nous pouvions nous unir dans la prière et dire sincèrement, Seigneur, pour que je sois sûr de ne pas rechercher le second sans avoir reçu le premier. Faisons directement le premier pas. Cela ne peut pas faire du mal. Qui peut être lésé s'il peut faire une expérience avec le Seigneur? Notre Seigneur est présent. Je crois qu'il nous a donné cette parole. Et si cela avait pour seul but de nous faire prendre conscience de ce dont nous parlons en ce moment, alors tout cela en aurait voulu la peine. Il ne s'agit plus de mettre de la force en nous pour faire quelque chose, mais de mettre Dieu à notre... mais de nous mettre à la disposition de Dieu avec une nouvelle vie, avec une nouvelle nature, afin que sa puissance puisse agir puissamment à travers nous. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est bien de cela qu'il s'agit. Nous l'avons vu dans le ministère et encore dans la vie de Frère Branham. Il pouvait vraiment entourer de ses bras tout le monde. Il ne voulait de mal à personne et il le répète sans cesse. On lui a attribué tous les titres qu'il est possible de trouver sous le soleil. On l'a affublé de tous les noms, de devin à faux prophète, de séducteur à escroc, oui, jusqu'à celui de plus grand charlatan. Et cet homme peut dire, il n'y a personne que je ne puisse serrer dans mes bras et à qui je ne puisse dire je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est une grâce de Dieu. Il faut d'abord en avoir fait l'expérience pour pouvoir en parler. Mais je le souhaite. Je nous le souhaite à tous. Mais vous aussi, dites-le une fois. C'est certain. L'amen a été un peu faible. Vraiment. Oui. 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 Oui, ça a été faible. Oui, louange et grâce à notre Dieu. Croyons que le Seigneur est bon avec nous. Nous approchons de la fin et à la fin, tout sera comme au commencement. L'Église doit retrouver son état originel. Si nous sommes l'Église, nous devons nous attendre à ce que cela nous arrive. Nous ne voulons pas ressembler aux arbres nus que la lune a éclairés et qui ont fait un bruit qui pouvait nous donner un peu la chair de poule. Par la grâce de Dieu, nous voulons ressembler à la semence, à la graine qui vient de germer, qui a la vie en elle, qui est tombée dans le sol. Nous voulons être le fruit qui, par la grâce de Dieu, renaît maintenant. Je crois que c'est nous. Je crois que Dieu a fait un ensemencement et qu'il y aura aussi une récolte. Laissons donc autour de nous tout bruit qui pourrait effrayer les autres. Que la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur, la douceur, sa nature, sa douceur et tout ce qu'il est, toutes ses vertus se manifestent autour de nous et à travers nous, à travers nous. De plus, nous attendons qu'il dépose son esprit en nous en tant que puissance de Dieu, sa puissance dans notre cœur qui a été renouvelée par son esprit et que nous puissions ensuite alors suivre ses instructions et faire ce qu'il a dit dans sa parole. Les quatre dernières paroles sont que attendez et que vous puissiez réellement exécuter. C'est lui par sa puissance qui fera de nous des gens qui puissent réaliser, exécuter ses instructions. Et que vous puissiez réaliser, exécuter, oui. Non seulement entendre, écouter, mais réellement exécuter par la grâce de Dieu. Mes chers amis, on ne peut rien ajouter à ce que nous avons entendu. Nous y croyons et nous attendons de Dieu une véritable renaissance, un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est-à-dire une nouvelle vie dans ce cœur nouveau grâce à une véritable nouvelle naissance par la parole et l'esprit de Dieu. Et puis, nous nous attendons à ce que nous qui avons vécu réellement cette nouvelle naissance de manière biblique, d'être ensuite revêtus, équipés, dotés de l'autorité, de la puissance de Dieu. Et ce n'est plus nous alors qui faisons quelque chose, mais c'est la puissance de Dieu à travers nous. Nous n'avons plus d'efforts à fournir. Nous sommes seulement des gens à la disposition du Seigneur. Je le répète, je le souhaite. Je veux voir chaque parole de Dieu s'accomplir comme nous l'avons si bien entendu dans la parole d'introduction. Le Seigneur est juste. Néhémie 8, verset 9. Plutôt, Néhémie 9, verset 8. Tu as tenu parole car tu es juste. Dieu ne devrait-il pas tenir parole? Il est vrai et sa parole est vraie. Il tient ses promesses. Il nous a promis un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous l'acceptons, ce qu'il nous a dit, sans hésitation, sans rien. Accepte-le aujourd'hui et dites, Seigneur, je te remercie pour la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. La nouvelle alliance a été confirmée dans son sang. Le nouveau cœur, la nouvelle vie sont à ta disposition et à la mienne. C'est dans cette nouvelle vie que la puissance de Dieu doit à nouveau se manifester maintenant. C'est dans cette nouvelle vie que la puissance de Dieu doit maintenant venir pour se manifester. Comme vous le savez, le Christ, notre Seigneur, est également né de l'Esprit. Et lorsqu'il a dû commencer son ministère, d'abord l'Esprit est venu sur lui. La puissance. D'un côté, il était engendré par l'Esprit et de l'autre, il était ensuite rempli de l'Esprit. Et puis, après l'épreuve, le ministère a commencé. J'espère qu'un jour, notre épreuve prendra fin et que le ministère pourra alors commencer avec une autorité absolue, sans présomption, mais en regardant vers Dieu. J'ai confiance que le Seigneur confirmera sa parole. Que ce soit à travers moi, à travers toi, c'est son affaire, mais il se montrera fidèle. Il fera ce qu'il a dit et nous pourrons finalement dire, tu as tenu parole, car tu es juste. Et le Seigneur Dieu dit, que je restaurerai, rétablirai toutes choses. Nous avons entendu le message et après l'avoir entendu, nous devons recevoir pleinement cette restitution, ce rétablissement de toutes choses. Que Dieu nous bénisse tous par la richesse de sa grâce. Amen. Levons-nous et remercions-le du fond du cœur de nous parler encore. Frère Rousse, veux-tu prier avec nous? Père Céleste, nous te remercions à nouveau pour ta parole précieuse et sainte, pour ce que tu nous as dit ce soir. Dieu fidèle, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, nous sommes devant toi. Révélés, nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Mon Dieu, fais-nous comprendre ce que nous sommes, ô Seigneur. Seigneur, si nous n'avons pas encore cette nouvelle vie, si notre cœur de pierre est toujours là, nous te prions sincèrement, ensemble, ô Seigneur, ôte de nous, ô Seigneur, ce cœur de pierre et donne-nous une nouvelle vie, un nouveau cœur, ô Seigneur, un nouvel esprit de certitude. Ô Seigneur, afin que nous ayons la certitude, Seigneur, que tu as créé quelque chose de nouveau en moi, en nous tous, ô Seigneur. Mon Dieu, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais nous savons que tu es capable de le faire. Et nous te prenons au mot, à ta promesse. Car tu l'as dit dans Ézéchiel, tu l'as promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Mon Dieu, nous ne pouvons pas le prendre nous-mêmes, nous le procurer, mais nous te demandons de nous le donner. Seigneur, fais-le, mon Dieu, si possible, ce soir. Mon Dieu, maintenant, en ce moment précis, tu es juste, tu es fidèle, tu es vrai. Seigneur, nous t'adorons du plus profond de nous-mêmes. Ô Seigneur, tu tiens parole. Ce que tu as promis, ce que tu as promis, tu veux le donner, Seigneur. Et tu le donnes. C'est pourquoi nous te louons. Mais plus encore, nous voulons avoir ton esprit, Seigneur. Et d'être revêtu de ton Saint-Esprit, de la puissance d'en haut. Gloire et honneur, gloire et adoration à ton nom. Seigneur, je te prie, crée de telles prières dans nos cœurs. Ce soir, Seigneur, donne le vrai désir, donne la vraie faim et le vrai désir pour cela, ô Seigneur, pour toutes ces choses, car ainsi nous ne pouvons pas subsister devant toi, Seigneur. Nous avons de plus en plus besoin de toi. Nous avons besoin de ce que tu crées, Seigneur, pas de ce que nous créons, mais de ce que tu crées. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et nous voyons dans les Écritures que tu l'as toujours donné à ton peuple, même à l'époque autrefois où tu étais sur terre, Seigneur, tu l'as donné à tes disciples. Et nous avons besoin que tu nous le donnes, ô Dieu. Nous ne faisons pas que le dire, Seigneur. Nous le savons à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Nous le pensons réellement. Donne-nous la vie. Donne la vie à toute ton œuvre. Oh, fais de nous quelque chose, Seigneur, pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu atteindras le but avec nous, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, accorde la grâce que personne ne doute, mais nous savons que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Gloire et honneur, gloire et adoration à ton nom. Alléluia. Amen. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Le sang de l'agneau me purifie et crée tout nouveau. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Le sang de l'agneau me purifie. Le sang de l'agneau me purifie et crée tout nouveau. Chers amis, nous avons entendu Frère Branham dire que nous avons l'impression d'être entourés de murs, comme si nous étions incapables de les franchir. Nous sentons que quelque chose n'est pas encore comme il devrait être. Et puis il dit que le commencement est fait. Et les murs seront détruits et ils tomberont comme les murs de Jéricho. J'ajoute, car le Seigneur est le même. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Nous sentons que les choses ne sont pas encore comme elles devraient être. Et quiconque ressent vraiment cela doit savoir maintenant que Dieu a quelque chose en réserve pour lui. Nous n'avons pas reçu ce sentiment pour nous décourager et désespérer. Nous avons reçu ce sentiment parce que Dieu a encore plus en réserve pour nous. C'est pourquoi soyez courageux, soyez encouragés et ne craignez pas. C'est le Seigneur qui conduit toutes choses de manière merveilleuse. Et aussi la comparaison avec les confessions et les dénominations dont nous sommes tous issus. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu une nouvelle vie. Elle est encore fragile, mais Dieu l'a fait grandir et prospérer. Nous pouvons être très reconnaissants pour les prédications, pour les pensées qui y sont exprimées. Prenons-les à cœur afin que Dieu puisse obtenir justice et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Croyons-y afin qu'il puisse le confirmer. Et comme cela a déjà été souligné dans la prière, Dieu a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Nous ne pouvons pas nous le procurer. Nous ne pouvons pas non plus nous procurer l'esprit, ni une nouvelle vie, ni rien d'autre. Mais tout peut nous être donné. Le Seigneur nous l'a promis. Après ces jours-là, je conclurai une alliance, une nouvelle alliance Alors je mettrai ma parole en vous, un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, et faire de vous des gens qui marchent dans mes voies. Fidèle Seigneur, nous te remercions car tout est devenu possible par Golgotha. Mais nous te demandons sincèrement une nouvelle vivification, une nouvelle action de ton Saint-Esprit. Seigneur bien-aimé, commence à moi, commence à nous tous. Fais-nous taire, Seigneur, afin que nous cherchions et trouvions davantage de communion avec toi. Aie pitié de nous. Et nous te remercierons et honorerons ton nom. Alléluia. Alléluia. Que tu sois loué. Que tu sois loué. Amen.